C'est effectivement le mois d'août. Et le mois d'août est consacré traditionnellement au repos, au farniente, à la lecture agréable, à la promenade, au voyage. Et dans cet esprit décontracté, même cool, je vous propose aussi ce type de cheminement, en faisant néanmoins appel à votre imagination. Alors, laissons-nous transporter librement au gré des images qui certainement nous parleront. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Aujourd'hui, pour cette prédication, aurais-je perdu la tête en évoquant d'abord La Fontaine et une de ses fameuses fables, Le Corbeau et le Renard? Je vous en laisse juger. Mais avant de lire notre texte du jour en Matthieu 25, qui est une parabole, je vous propose de faire un détour sur les liens qui unissent parabole et fable. C'est Ésope, bien longtemps, qui est le fondateur de ce genre littéraire, celui de la fable. Cet art de raconter facilite l'implication de l'auditeur, l'entraîne au cœur du récit et l'appelle à en retirer un enseignement. Ésope pour la fable, Jésus pour la parabole ouvre des espaces narratifs à investir. Et comme nous le rappelle à cet égard Daniel Margerat, un auteur contemporain, la parabole s'offre donc dans l'Évangile comme une parole figurative dont le sens doit être cherché au-delà d'elle. Par excellence, la parabole est un langage qui dit plus qu'il ne dit. Néanmoins, nous pouvons toujours nous interroger. Pourquoi ces paraboles ont-elles marqué à ce point les esprits? Pourquoi Jésus a-t-il autant privilégié cette forme de langage? Effectivement, Jésus a hérité de ce type de langage, fable ou parabole, suivant l'époque, pour s'en servir librement. Encore faut-il savoir bien le pratiquer. Et dans ce domaine, Jésus maîtrise très bien les codes de ce type de communication. Le style, les tournures, la portée essentielle du récit. Et ainsi, les paraboles vont efficacement, surtout, servir à sa prédication. Surtout en période de crise. Encore aujourd'hui, cette situation de crise nous rejoint. Certes, pour des raisons différentes. À l'époque de Jean de La Fontaine, il s'agissait de raconter en se protégeant d'une trop grande liberté d'expression. L'image est là, mais la parole avec son sens est voilée. Aujourd'hui, l'image, elle est là. La liberté de parole aussi. Mais, il nous faut mettre un masque. Non plus par rapport à la liberté d'expression, mais pour notre sécurité sanitaire. Alors, nous pouvons aussi, comme à l'époque de Jésus, parler de crise. Mais considérons que cette situation est une opportunité. Opportunité pour mieux écouter et pour nous exprimer que sur l'essentiel. Et dans cet esprit de réflexion, je vous invite à écouter cette parabole. En Matthieu 25, versets 1 à 13, appelée parabole des 10 jeunes filles. En effet, elle parle le langage de notre existence. Ce langage créatif nous saisit, nous projette en nous des images qui font voir la réalité autrement. Cette parole crée un lien entre le royaume et notre existence. cette parole œuvre en nous une profonde transformation silencieuse. Belle histoire, belles images. Images d'abord de la rencontre avec Jésus. Le premier verset expose la situation et avertit. Nous apprendrons quelque chose du royaume des cieux en suivant un groupe de jeunes filles qui ont le même désir, à savoir rencontrer l'époux. Et dans cet esprit, seule la dynamique compte, l'élan vers l'époux. Que certaines soient avisées, d'autres insensées, cela reste secondaire pour l'instant. Du verset 2 au verset 7, une intrigue va se nouer qui révèle alors l'importance de cette distinction de caractère. Effectivement, les insensés ne prennent pas d'huile, les avisés en prennent. En d'autres termes, certaines font et d'autres ne font pas. Mais de toute manière, elles s'endorment toutes, puisque l'époux tarde. C'est l'image, ici, de l'élan des jeunes filles interrompu. Alors il faut un cri extérieur qui est pour rappeler le projet initial. Et ce cri serait comme un rappel à l'ordre, laissant encore le temps de se ressaisir avant la rencontre définitive, décisive, exprimée ainsi, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, l'élan revient et se transforme en promesse de rencontre. Pour trouver l'époux, il n'y a pas de règle. Il n'y a qu'un seul appel extérieur adressé à toutes, avisées, insensées, voilà. C'est vrai, elles se réveillent, elles apprêtent leurs lampes, mais les insensés n'ont pas assez d'huile pour poursuivre la route. Et voici donc le nœud du problème. Mais à ce stade, nous sommes tous convaincus, et nous aussi aujourd'hui, qu'il faut combler un manque. Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment la solution de cette intrigue? Combler ce manque, c'est légitime dans nos schémas, dans nos conceptions humanistes. Mais on va poursuivre la lecture, et en poursuivant les versets qui suivent, nous voyons que l'intrigue devient incongrue. Première proposition à l'initiative des insensés, la logique du partage. Mais là, les avisés font plutôt preuve d'égoïsme. Deuxième proposition, ici à l'initiative des avisés, qui fait appel alors à la logique économique. Il s'agirait donc de se détourner de l'objectif pour partir acheter de l'huile. Et les cinq jeunes filles acceptent ce deal absurde. D'abord la transaction, ensuite la rencontre. Soit ce que l'on découvre au travers de ces différents comportements, c'est la complexité de nos motivations humaines. Entre autres de motivations, voilà. Refus du partage d'un côté, priorité à la solution marchande et consumériste de l'autre. Et pour terminer, un choix hasardeux. Et tout ça à cause de quoi? C'est que c'est l'époux qui est arrivé tardivement et qui dévoile donc la réalité de leur existence. Mais c'est aussi la réalité quant à nous, n'est-ce pas? Quant à nos difficultés, de nos motivations humaines. Enfin soit, l'époux est là. L'époux est là, mais pour autant, il ne les juge pas. Il ne juge pas les avisés présentes, avec leur manque de générosité, leur endormissement. L'époux ne demande rien, rien à celles qui sont derrière la porte. Il ne les sélectionne pas. Il les accueille, Alors, cette rencontre répond à un double mouvement. Celui d'une jeune fille qui répond à l'appel. Celui de l'époux qui ouvre la porte. Ce dénouement échappe à nos logiques humaines, logique du jugement, logique matérialiste, logique du faire. Et il nous montre que l'essentiel se joue dans l'élan initié par l'appel. Et c'est pour nous une nouvelle grille de lecture. Il ne s'agit pas d'avoir, de ne pas avoir, d'être avisé ou de ne pas être, ou d'être insensé. Il s'agit de sortir à la rencontre pour être là le moment venu. Être là, être ou ne pas être, mais être surtout là. Et alors, c'est là. C'est alors donc une promesse de participation aux noces sans condition pour quiconque se tient là. La parabole nous exhorte à nous tenir là, mais plus encore. À nous de nous tenir aussi vivants, vivants devant Dieu dès à présent. Le royaume de Dieu est raconté en termes d'élan initié par une intervention extérieure, résolument orientée vers le Christ. Veiller consiste à vivre fidèlement de cet appel. Oui, la parabole des jeunes filles ouvre de nouvelles voies d'appropriation où chacun peut recevoir dans son existence le cri qui lui est adressé. Sortez à la rencontre. Mais pour nous, qu'en est-il aujourd'hui? Et de quoi sera fait le monde de demain? Une crise comme celle que nous traversons aujourd'hui est faite à la fois de dangers et d'opportunités. Mais il serait préjudiciable de passer à côté de l'interpellation véritable, de passer à côté de l'essentiel, l'interpellation de Jésus le Christ, véritable puissance qu'il nous revient de saisir ou d'ignorer. Par grâce, cette crise peut être l'occasion d'une rencontre avec lui, qui propose donc sa présence, sa sagesse à ce qui en manque. Quand un minuscule virus est capable de mettre le monde sans dessus-dessous, et que les puissances s'agitent de façon frénétique, cela interroge. Cela interroge sur le lieu où le monde enracine son espérance. La foi dans le Christ ouvre un nouveau chemin dans le monde, dans ce monde d'incertitude. Elle n'est pas conditionnée par l'économie de marché, ni par l'état sanitaire du monde. Elle propose un chemin de foi, d'espérance et d'amour. De foi. Foi en un Dieu qui tient toutes choses entre ses mains et qui permet d'avancer pas à pas vers l'inconnu de l'avenir. Espérance. Espérance qui mobilise le croyant vers plus de paix, de justice, et en particulier pour ceux et celles qui en sont dépourvus. Amour. Amour du prochain, qui peut s'exprimer de mille et une manières. Et dans ce cadre-là, chacun sa réponse. Je voudrais ici quand même rappeler des possibles engagements dans l'aumônerie hospitalière, l'aumônerie des prisons, engagement aussi dans le diaconat, ici à Bordeaux, dans le diaconat, qui œuvre pour les personnes qui sont en situation précaire au niveau de l'emploi, au niveau du logement et plus. Engagement financier pour des œuvres telles que l'Armée du Salut, la Cause, CIMADE, le SEN, les Portes Ouvertes et d'autres. Engagement localement, ici à Pessac, pour celui qui est notre prochain, l'étudiant, le voisin, l'ami et frère et sœur de la communauté. C'est vrai, nul ne sait de quoi sera fait le monde de demain, Mais dans ce voyage, dans cette rencontre, le Christ a promis sa compagnie à tous ceux qui veulent s'y ouvrir. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, a-t-il dit. Le Dieu qui a accompagné les crises à répétition que l'humanité a traversées jusque-là saura aussi nous accompagner dans celle-ci. Il est celui sur lequel repose le monde de demain, celui qui suscite la foi, l'espérance et l'amour. Et en conclusion, pour revenir à la parabole, elle est indissociablement liée à Jésus-Christ. La parabole s'est faite le porte-voix et proclame sa parole pleine d'une intention pour celui qui l'écoute. Elle n'est pas la parole du pouvoir, elle est le pouvoir de la parole, capable de montrer en image la réalité telle qu'elle est et telle qu'elle sera. Elle amplifie le cri venu plus haut et de plus loin. Et ce cri, il réveille, il redresse, il envoie pour faire parvenir à chacun, à l'humaine existence, à notre humaine existence, devant Dieu. La parabole est porteuse aussi d'un changement profond promis à l'existence humaine. Tendre l'oreille, c'est déjà comprendre qu'elle nous réclame. Entrouvrir les yeux, c'est déjà apercevoir la joie qui l'anime. Ouvrir le cœur, c'est oser la rencontre bouleversante pour se tenir vivant. Amen.